L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Et on reçoit aujourd'hui un invité de marque, à la fois bénévole de Radio Évasion et président d'une association locale de patrimoine, pourrait-on dire, patrimoine immatériel mais ô combien précieux, puisqu'il s'agit des contes et légendes de Cornouailles qui ont leur maison à Plomodière, donc maison des contes et légendes de Cornouailles. Christophe Méchin anime cette émission « Il était une fois en Cornouailles » qu'on peut écouter sur nos ondes le mercredi matin à 10h et le samedi à 13h, une fois par semaine, c'est courageux. Et il a donc créé cette association, et c'est plutôt le sujet de cette émission, parce que les émissions de Christophe, vous n'avez qu'à les écouter. Bonjour Christophe.
Bonjour Véronique.
Pourquoi avoir créé déjà cette association, la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles? À quand ça remonte? Enfin, quelle est un peu l'histoire de la naissance de cette maison?
Alors, la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, c'est une association donc type loi 1901, et elle a été créée en 2014. Elle est enregistrée auprès de la sous-préfecture de Châteaulin. Et elle a été créée pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte que rien de comparable n'existait.
C'est incroyable. Ça.
Voilà, malgré la richesse du domaine, on était assez abasourdi d'ailleurs, donc on s'est dit qu'il y avait un manque là, il fallait le combler, donc on a décidé de se lancer là-dedans.
Et l'objet exact de l'association, c'est quoi?
Alors l'objet de l'association, c'est la préservation et la vulgarisation des contes et des légendes de la Cornouaille historique.
Alors voilà, c'est là qu'on va quand même préciser, parce que évidemment, on aurait pu faire une maison des contes et légendes bretonnes, hein. Ça aurait marché aussi, mais bon. Alors la Cornouaille historique, c'est quel territoire exactement?
Alors la Cornouaille historique, c'est l'ancienne évêché de Cornouaille, c'est-à-dire que c'est une partie du territoire du Finistère, à peu près les deux tiers sud du Finistère, on va dire jusqu'au Roc Trévézel dans les Monts d'Arrée. Qui ensuite part vers l'est, qui prend jusqu'au-dessus de Pontivy. Donc tu vois, c'est quand même pas mal.
Ah, c'est quand même loin, oui.
Voilà. Et ensuite, ça redescend, ça revient un petit peu vers l'ouest et ça redescend au niveau de Quimperlé. Donc ça s'arrête juste avant Lorient. Et c'était un des plus grands évêchés avant de l'ancienne Bretagne. Et c'est pour ça qu'on a pris cette étendue-là, parce qu'il y a une spécificité sur laquelle on reviendra sans doute pendant l'émission. Et donc on a décidé que ça serait notre zone d'action, de façon à bien se délimiter et à ne pas se disperser dans tout ce qui est légende bretonne au sens large, parce que chaque territoire breton a ses spécificités.
Oui, c'est ça. Et vous êtes combien en fait dans cette
Alors,
maison?
Alors on est six bénévoles, donc six bénévoles permanents, on va dire. Et ensuite, on travaille avec des gens, on va dire ce qu'on appelle des capteurs de légende chez nous. C'est-à-dire des gens qui nous envoient ponctuellement des références de livres à voir sur la région ou des contes qu'ils ont recueillis auprès de leur grand-mère dont ils se rappellent, etc. Ou alors des vieux livres qui ne sont plus parus et dont on nous mentionne le titre pour essayer de les retrouver et puis pour pouvoir les exploiter, en faire des synthèses et puis les vulgariser à nouveau.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a deux grandes activités finalement. Il y a le collectage d'un côté, les recherches, enfin, et puis la diffusion, finalement.
Alors, c'est ça, c'est tout à fait ça. Nous, on s'est organisé autour de trois pôles dans l'association. Trois pôles, c'est la structure ternaire, hein, c'est la première basique. Hein, donc, on a trois pôles. On a un pôle recherche qui travaille sur tout ce qui est collecte et origine des légendes, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Ensuite, on a un pôle édition qui s'occupe donc de la mise en forme des livres et de l'impression des livres.
Ah, parce qu'il y a des livres?
Oui, il y a des livres, tout à fait. C'est notre façon. On refuse tout ce qui est subvention, parce qu'on part du principe qu'il y en a qui en ont plus besoin que nous. Donc, on ne veut pas demander de subvention. Donc, les livres, c'est notre source de revenus, en fait.
Et donc, c'est une édition. Enfin, en fait, c'est quelque part, l'association devient maison d'édition, si on veut.
Oui, tout à fait. Oui, sur ce plan-là, oui, c'est une maison d'édition à part entière, avec des livres. On participe aux salons, aux différents salons littéraires, chaque fois. De préférence, chaque fois qu'on est invité, parce qu'on évite, comme on n'a pas beaucoup de moyens, on évite de payer.
Oui, des stands. J'imagine très bien.
Voilà. Ouais. Et donc sur ce plan-là, effectivement, c'est une maison d'édition. On a un catalogue pour l'instant d'une quinzaine de livres publiés. Et on en a encore une dizaine d'autres sous le coude qui vont paraître en 2021. Donc, fin 2021, je pense qu'on arrivera à 25-30 livres.
Ah ouais. Donc, là, c'est le pôle édition, c'est ça ? Enfin, il y a le pôle recherche, le pôle édition ou le pôle diffusion ? Enfin, comment ça
Alors,
se passe ?
Alors, le pôle diffusion, c'est ceux qui s'occupent... C'est le troisième pôle, en fait, de la maison de la maison des contes et légendes. Et c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est organisation de participation au salon,
mise
en place auprès des libraires, s'ils demandent. Parce qu'on ne fait pas de démarchage.
D'accord.
Donc, on part du principe que... le démarchage, ça veut dire mettre en place des livres avec le risque que ça nous revienne. Donc, ça veut dire, pour nous, c'est gâcher du papier, c'est pas notre démarche.
Mm-hmm.
Donc, les livres, on les fait en flux tendu, pratiquement. Surtout depuis qu'on sait qu'on est revenu à la consommation d'arbres pour le papier au lieu du papier recyclé. Donc, ça nous agace un petit peu.
Ouais. Après, si c'est des arbres gérés, bon.
Oui, c'est vrai. Mais bon, on préférait que ça soit sur du papier recyclé, mais on ne fait plus maintenant. Donc, on est d'autant plus volontaire pour faire du flux tendu. Et
donc, à la demande, quoi.
Voilà, à la demande, c'est ça. On imprime les livres pratiquement.
Ah ouais, mais qui imprime ça ? Qui peut imprimer à la demande comme ça ?
Ça se fait beaucoup maintenant parce que c'est des impressions numériques.
Ah oui, d'accord.
Donc, ça, on peut imprimer un seul exemplaire si on veut.
Donc, par Internet, en fait.
Voilà, tout à fait. Donc,
oui, d'accord. Toutes ces boîtes qui proposent des livres photos, par exemple.
Voilà.
D'accord. Et donc, ces livres, ce sont des livres savants, des livres de contes ? Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait ?
Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu tout parce qu'on considère, on fait de la vulgarisation avec le pôle recherche, donc on publie les travaux du pôle recherche. Et il faut bien dire que ce n'est pas ce que les gens recherchent le plus. Les gens cherchent plus des histoires pour s'évader, donc on fait beaucoup d'histoires qui mettent en scène les personnages des légendes de la Cornouaille historique de façon à les faire connaître.
Donc. Mais c'est réinventé, ce sont des nouvelles histoires. Ce n'est pas forcément des histoires récupérées réactualisées, par exemple.
Alors, il y a les deux. Il y a donc des réimpressions de livres traditionnels, des grands classiques, notamment les classiques d'Anatole Le Braz. On vient de ressortir il n'y a pas longtemps Légende de la mort en Basse-Bretagne, qui était le précurseur de Légende de la mort chez les Armoricains. Donc, on fait les grands classiques, les recueils de légendes, et on fait des histoires d'imagination, donc pour remettre en valeur un petit peu, et puis peut-être donner envie aux gens qui découvrent le personnage dans une histoire de se renseigner un petit peu plus sur lui.
Et les auteurs, c'est qui ? Alors, c'est toi ? Il y en a d'autres ?
Alors, on est deux auteurs, moi et mon fils, Raphaël.
Qui a écrit aussi des polars, je crois,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, tout à fait, oui. Et donc, qui, lui, voudra en faire son métier, donc je lui fais un petit peu de pub, j'en profite.
Ben oui, allons-y.
Et donc, lui, il fait tout ce qui est polar fantastique, et puis moi, je fais plutôt tout ce qui est conte.
Ah oui. Alors donc, ces personnages... Déjà, revenons sur ce qui est intéressant, les spécificités du légendaire cornouaillais. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, alors ça, c'est un... Là, je pourrais tenir des heures là-dessus. Donc, les spécificités de la Cornouaille historique, en fait, tu en as plusieurs. Tu en as, on va dire, une spécificité historique, déjà, parce que c'est une région où le culte celte a été préservé, même pendant l'époque gallo-romaine. Donc, il a été préservé très longtemps. Alors, pas de manière officielle, mais sur les stèles, sur les bornes, sur les pièces de monnaie. Comme c'était une région qui n'était pas particulièrement, on va dire, sous l'œil.
Ouais, c'était un peu reculé, quoi.
Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Les Romains n'étaient pas tellement intéressés par l'océan et par ce qui bordait l'océan.
C'est
parce
fou,
que
ça.
C'était pas leur affaire. Donc, ils voyaient ça de loin, ce qui fait que la population locale a pu préserver son patrimoine, son propre patrimoine.
Donc, surtout les dieux et déesses gauloises, celtes. Ouais.
Exactement. Donc, on a pas mal de légendes qui dérivent directement de la mythologie celte. Et on s'emploie, nous, justement, à les retracer, à les rechercher, à en préciser l'origine, d'où ça vient, tout ça.
Ah oui, parce que comme il n'y avait pas d'écrit, ce n'est pas évident non plus de connaître la réalité de ces dieux-là. Enfin, en fait, à travers les images d'archéologie.
Voilà, exactement. Sur le plan archéologique, c'est uniquement ça. C'est les témoignages qui ont été laissés par des dédicaces sur les stèles dans les villas romaines ou alors par les figures qu'on trouve sur les pièces de monnaie. Parce que ça se faisait souvent. Donc, les gallo-romains, on va dire, profitaient des pièces de monnaie, de l'art figuratif sur les pièces de monnaie pour perpétuer un petit peu leur ancien patrimoine, notamment. Donc, on voyait beaucoup de symboles des anciens dieux, etc.
Et donc, c'était qui ? Ces dieux, on les connaît un petit... Enfin, certains sont connus... c'est surtout des dieux, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de déesses. Hein.
Ah, si, il y en a une.
Il y a Epona, mais bon, c'est celle des chevaux, alors,
alors, Epona, oui, mais elle est plutôt irlandaise, Epona.
Ah bon, d'accord.
Mais effectivement, bon, c'était une déesse des chevaux. Mais dans la région, à proprement parler, tu en avais trois qui étaient très importants et dont on relate le culte. Dont des historiens comme Diodore de Sicile, par exemple, un historien antique, relataient le culte. Hein. C'était les dioscures celtes, c'est-à-dire Cernunnos, le dieu de l'obscurité.
Non, on dit Cernunnos, je croyais qu'on disait Cernunnos, moi.
Ah, bon,
on dit comme on veut, parce qu'en fait, on ne sait pas. Ils ne sont plus là. Et bon, c'est celui qui a des cornes de cerf,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'était en fait le dieu de l'obscurité, de la nuit. Le dieu du royaume des morts, mais aussi le dieu de l'océan, des forêts, de tout ce qui était sombre, en fait. Hein. Et c'était lui qui régnait sur le monde pendant la partie de l'année où les nuits étaient plus longues que les jours.
Bon, bah là, on est en plein dedans. Hein. Là, c'est la période de Cernunnos.
Voilà, exactement, hein, jusqu'au solstice d'hiver. Et donc, ce dieu Cernunnos, en fait, passait l'année à se battre avec son frère jumeau, qui était Lugus Belenos, le dieu du soleil, de la clarté.
Lug, c'est ça ?
Voilà, Lug, c'est ça.
Ah ouais. Et c'est le même que Belenos ?
Oui, c'est alors Belenos, en fait, c'était un adjectif qu'on a collé à Lug.
Ah,
qui
d'accord.
Qui signifiait le brillant.
Et Lug, je croyais que c'était le dieu du commerce, moi, Lug.
Alors, c'est le dieu des échanges, donc du commerce. Hein. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose qui a permis à César, quand il a fait la guerre des Gaules, de l'assimiler à Mercure, hein, le dieu des marchands. Et Lugus, c'était, comme tous les dieux celtes, hein, ils avaient plusieurs attributs, hein, comme on a vu pour Cernunnos, Lugus était le dieu du soleil, de la clarté, donc de la perspicacité, de la vision aussi, hein, parce que tout ce qui touche autour de la clarté. C'était le dieu des chevaux, parce que le soleil était tiré par un cheval.
En plus d'Epona, alors
Voilà, oui. Ah bon. Et donc, c'était le dieu des chevaux. Et d'ailleurs, on organisait pour Lugnasad une grande fête du mois d'août en l'honneur de Lug. On organisait des courses de chevaux. Et ce qui a fait dire à César que Lugus, l'équivalent de Mercure, était le dieu du commerce, c'est qu'en fait, tous les accords pour montrer qu'il n'y avait pas d'intention cachée, se faisait sous le patronage de Lugus, y compris les accords commerciaux.
D'accord.
Et donc, c'est pour ça que Lugus était considéré un petit peu aussi comme le dieu des marchands, mais le dieu des marchands dans le sens transaction commerciale claire.
Oui, ouais, d'accord, voilà. OK. Uh-huh.
Et donc, alors, ces deux frères jumeaux se battaient tout le long de l'année. Hein, donc,
bien sûr,
voilà.
Normal.
Et quand les jours étaient plus longs que les nuits, eh bien, c'était Lugus qui régnait sur la terre, Lugus Belenos. Et quand à l'inverse, les nuits étaient plus longues que les jours, c'était Cernunnos qui régnait donc sur le monde. Et donc, on rendait culte à chaque fois, selon la période de l'année, à tel ou tel dieu, sachant qu'ils se partageaient la même femme.
Qui était donc...
Alors, pour ici, je vais l'appeler Brigitte. Brigitte, c'est son nom irlandais. On a trouvé une statuette au pied du Ménéum à qui on a donné ce nom-là en 1913 parce qu'à l'époque, tout ce qui était celtisme renvoyait à l'Irlande. Donc, on a donné le nom irlandais. Mais en fait, le nom gaulois de cette déesse était Belisama, qui signifiait la brillante.
Ah oui.
La brillante, Belisama. On voit son nom dans Astérix.
Exactement,
des fois,
c'est ça. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on les connaît, hein, voilà. Les dieux gaulois. Hein, faut pas...
Et donc, alors, elle était la déesse de la clarté.
Ah,
Qui était différente donc, du soleil, parce que quand le soleil est caché, il fait jour quand même.
Hein, ah,
donc,
ouais, d'accord.
Les Celtes avaient différencié les deux. Mm-hmm. Et donc, alors, Brigitte Belisama, c'était une coquine, hein, parce qu'en fait, elle faisait cocu ses deux maris à tour de rôle.
Comme tant d'autres déesses.
Et donc, Cernunnos, quand il avait la victoire sur son frère Lugus, hein, eh bien, il prenait pour épouse Brigitte Belisama, qui était enceinte de Lugus. Donc, tu vois, il y a une espèce de yin et yang avec un petit peu de l'ancien dans le nouveau. Enfin bon, c'est assez...
Donc ça, c'est une spécificité de Cornouaille, c'est d'avoir ces cultes de dieux et déesses celtes assez vivants, quoi, qui sont restés dans le légendaire, apparemment.
Voilà, parce que le culte aux dioscures celtes s'était répandu, d'après Diodore de Sicile, sur toute la façade atlantique. Mais on le retrouve vraiment bien préservé en Cornouaille.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécificité cornouaillaise ?
Alors, une autre spécificité, c'était que lorsque la péninsule armoricaine a été repeuplée entre le 5e et le 6e siècle, parce que les Romains se sont retirés, ils sont retirés jusqu'à une ligne, on va dire Rennes-Nantes, et ils ont laissé la péninsule se débrouiller. Eh bien, comme l'Angleterre était envahie au temps des grandes invasions par les Angles et les Saxons, ces populations ont poussé devant eux les gens qui étaient déjà là. Notamment ce
des
qu'on appelle
Celtes,
les Britons, ouais, c'est ouais. Ça, c'était des Celtes. Et ces gens-là, notamment ceux du Pays de Galles, eh bien, ont pris le bateau, puisqu'ils étaient poussés par les envahisseurs.
Des bateaux en pierre, c'est ça?
Il y en a, tout
oui.
à fait. Je vois que j'ai la carrière connaisseuse. Et donc, ils sont venus s'installer en Cornouailles bretonne parce que toute la côte nord de la Bretagne, ils sont échappés de chez eux, en fait, hein, devant les grandes invasions. Et la côte nord de la Bretagne est rocheuse, donc elle n'est pas facile d'accès. Et les premières côtes faciles d'accès, bah, c'est au niveau de la baie de Douarnenez, de la rade de Brest. Donc, c'est là où ils sont arrivés en premier. Et donc, c'est les premiers points d'implantation des émigrés du Pays de Galles, essentiellement, hein, qui venaient par paroisse constituée avec le prêtre
le moine de service,
voilà,
ouais, bien sûr.
Et puis le seigneur local. Et souvent, le seigneur local est devenu un roi dans les légendes et le prêtre de service qui venait est devenu un saint. Quoi,
ouais.
Et donc, alors ça, c'est une autre spécificité de la Cornouaille bretonne, c'est-à-dire ça a été un point d'accès privilégié de cette immigration galloise entre le 5e et 6e siècle, qui sont venus donc avec leur patrimoine, pareil, leur patrimoine de contes et légendes qu'ils ont à peu près calqué sur des paysages qui ressemblaient à ce qu'ils avaient chez eux.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté, par exemple, alors comme personnage ou comme, comme légendaire, justement, typique
Alors, bah, ce dont on peut parler, c'est le Lyonnais, par exemple. Le Lyonnais, qui est le royaume de l'Ankou, de la mort. Mais ça, ça vient du Pays de Galles. Parce que pour les Gallois, le royaume de la mort se disait Anaun. Et Anaun, en breton, ça a donné Anaun. Hein.
Ah oui.
Le breton est un dérivé direct du gallois. Et donc, tout ce qui est culte des morts, tout ça, ça vient de ces émigrés gallois-là.
Est-ce qu'il y a d'autres spécificités encore,
Cornouaille? Oui, il y en a une. Alors, c'est même plus qu'une spécificité, c'est une unicité, c'est-à-dire qu'on le retrouve nulle part ailleurs. Tu as une superposition de deux matières littéraires. Il faut savoir que lorsqu'on était au Moyen-Âge, les troubadours, suivant l'endroit en France où ils se trouvaient, ils puisaient leur inspiration dans ce qu'on appelait des matières, qui constituaient des ensembles de textes. Donc si c'était un troubadour, enfin si c'était un ménestrel ou un troubadour du nord ou de l'est de la France, il puisait son inspiration dans la matière de France. La matière de France, c'était toutes les légendes ayant trait à Charlemagne et à ses preux. S'il était dans l'ouest de la France, eh bien, il puisait dans la matière de Bretagne, qui était donc le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde. Et s'il était plutôt dans le sud-est, eh bien, il puisait dans la matière de Rome, ce qu'on appelait la matière de Rome, qui était l'ensemble des récits des saints et des mythes gréco-romains. Donc, normalement, les matières ne se superposent pas. Elles sont bien compartimentées dans l'espace, sauf en Cornouailles, où on trouve un texte qui est lié à la matière de France, avec le roi Aquin, l'épopée du roi Aquin. Alors, le roi Aquin, vite fait, c'était un roi viking qui a profité que Charlemagne était occupé dans le nord de l'Allemagne pour lui piquer la Bretagne. Et, donc, et le roman du roi Aquin, qui est un des premiers textes rédigés en langue vulgaire, ce qui deviendra le français, au XIIIe siècle, eh bien, raconte comment Charlemagne est venu reprendre la Bretagne à ce fameux roi Aquin, le roi viking.
Il est moins connu que le roi Arthur, quand même.
Tout à fait, oui. Et le roi Aquin sévit en Cornouaille-Bretonne, puisqu'il meurt au pied du Ménéum, hein, pas défait par le champion de Charlemagne. Et tu as donc, au même endroit d'ailleurs, sur le Ménéum, tu as le dénouement de la légende du roi Marc, qui lui, donc le roi Marc aux oreilles de cheval,
ouais.
qui a trait à une légende liée au roi Arthur et au chevalier à la Table Ronde, donc à la matière de Bretagne. Et donc c'est le seul endroit, à ma connaissance, où les matières de France et de Bretagne sont superposées au même endroit. Sinon, tout est toujours compartimenté, sauf ici.
Et alors, j'ai appris parmi donc les personnages, le légendaire, ce sont des personnages, ce sont des, je suppose, des lieux aussi. Enfin, donc là, je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas de fées en Cornouailles, par exemple. Consternation.
Non, non, je confirme, il n'y a pas de fées en Cornouailles. Les fées, c'est une, tu les trouves en Pays Gallo essentiellement, hein, bon, du côté de Brocéliande.
Ah bah oui, bien
ça,
sûr.
Hein. En Cornouailles, t'as pas de fées. C'est les Korrigans qui tiennent le rôle des fées. C'est-à-dire que les Korrigans, ça a pas toujours été un petit peuple de lutins noirs aux grandes oreilles. À l'origine, les Korrigans, ça a trait à un peuple, ce qu'on appelle les fléaux de Bretagne, qui était l'équivalent, les corps, ce qu'on appelait les corps, qui a donné les Korrigans avec deux diminutifs ajoutés au nom, hein, Cor, Corrig, Corrigan, eh bien, les Cor, à l'origine, c'était un peu comme des elfes. Donc, ils changeaient de taille à volonté avant que l'Église les rapetisse et en fasse des petits lutins rabougris pour les discréditer, c'est toujours pareil. Mm-hmm. Donc, à l'origine, les Corrigans, c'était un peu comme les elfes du Seigneur des Anneaux, si tu veux un,
d'accord.
Si tu veux un point de comparaison.
Ouais, pas du tout rabougri, en effet.
Non, voilà. Et donc, les Corrigans en cornouailles jouaient le rôle des fées.
Ah bah oui, en effet.
Ouais. Des belles dames avec des pouvoirs magiques.
Ça colle bien, oui, tout à fait. Et il y avait des dragons.
Ah oui, il y avait des dragons. Alors, la Corrigan est un pays de dragons. Alors, pas forcément cracheurs de feu, hein, mais les vents étaient considérés comme des dragons.
Donc, oui, c'est d'ailleurs le sujet de la première émission de
voilà, tout à
Il
fait.
Était une fois en Cornouailles.
Ouais. Exactement. Et donc, les vents étaient considérés comme des dragons. Donc, on disait qu'ils habitaient dans des châteaux au-dessus des nuages. Et sinon, tu avais des dragons aquatiques, comme ceux qu'on retrouve dans la légende de la ville d'Ys, hein, puisque la princesse Dhu demande à l'océan de lui donner 1000 dragons. Et donc, l'océan va effectivement lui donner 1000 dragons, mais pour chaque dragon, il faudra un sacrifice humain. Donc, la princesse Dahu, elle va...
C'est embêtant.
Non, ça ne la gênait pas, en fait. Elle prenait un nouvel amant tous les soirs, et puis le matin, elle le sacrifiait à l'océan.
C'est donc, vrai, ben, oui, ça... c'est vrai. Ça ne la gênait pas, mais elle l'a bien payé, en même temps.
Ah, elle l'a bien payé, tout à fait.
est-ce qu'il y a des personnages, justement, qui sont uniques à la Cornouaille, enfin, aux légendaires cornouaillais, ou des lieux, des situations qui ne sont vraiment pas transposable d'un légendaire à l'autre.
Alors tu vois, la pièce maîtresse du folklore de Cornouailles, une des pièces maîtresses du folklore de Cornouailles, c'est la ville d'Ys, hein, dont je viens de parler.
Ouais, c'est vrai.
Donc la ville d'Ys, je le rappelle, elle est en baie de Douarnenez et pas ailleurs.
Ah bon, pourquoi il y a eu des hypothèses comme quoi elle était ailleurs ?
Je sais qu'il y a du côté de la baie d'Audierne, on aimerait bien que la ville d'Ys soit du côté de la baie d'Audierne, du côté de la Pointe du Raz aussi, mais en fait, je suis désolé, dans les premiers textes du XIIIe siècle qui ont trait à la ville d'Ys, elle est située en baie de Douarnenez. Donc la ville d'Ys, elle est en baie de Douarnenez.
D'accord, bon, très bien. Voilà. Enfin, moi, je suis d'accord, hein, mais... quelles sont les meilleures sources quand on fait de la... Alors, il y a les gens, bien sûr, qui racontent des histoires, j'ai compris ça, mais quelles sont les sources, sinon, on va dire, officielles pour le collectage et les recherches de légendaires ?
Alors, malheureusement, les gens, il y en a de moins en moins, parce que c'est quelque chose qui se perd. Hein. Avant, c'était toujours la grand-mère qui racontait lors des veillées, etc. Et ben, les grand-mères en question, elles sont parties, et... Il y en a de moins en moins qui perpétuent les contes et les légendes. Donc nous, on travaille quand même, on fait du collectage humain, chaque fois qu'on le peut, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous dire bah, « Tiens, je me rappelle de ça » ou « Tiens, j'ai trouvé ça comme cahier ». Parce qu'on fait pas, on fait conter légendes, mais on fait aussi tout ce qui est sorcellerie, tout ça, comment les gens... Donc des fois, il y a des vieux cahiers qui sortent.
Les remèdes, Ah d'accord. Ah bon, faudrait qu'on fasse une autre émission alors là-dessus.
Et donc on fait du collectage humain chaque fois qu'on nous le propose, mais notre grosse base de données, c'est les revues de la fin du 19e siècle. Qui ont été collectés donc, par des gens comme Anatole Lebras, justement, hein, ou Émile Souvestre, et qui sont en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Donc là, c'est vraiment une source presque inépuisable de richesse pour nous. Et c'est essentiellement avec ça qu'on travaille. Donc on fait beaucoup de synthèses avec ces documents-là, parce que c'est pareil, il y a à boire et à manger, donc il faut faire le tri. Mais maintenant, on travaille beaucoup, essentiellement avec ça. La partie humaine, c'est malheureux, mais c'est seulement notre deuxième source de données.
Ouais. Et au 19e siècle, donc, ils étaient vraiment... c'était quoi ? C'était une sorte de mode, en fait ?
Oui, c'était une réaction. C'est un courant littéraire hein, qui s'inscrit dans la ligne du romantisme, la collecte des contes et légendes, et en réaction au centralisme napoléonien.
Un peu nationaliste, alors peut-être, non ?
Régionaliste. Ouais, régionaliste. Ouais, bien sûr. C'est en réaction, en réaction au jacobinisme, en fait, on va dire.
Tout à fait.
Notamment le napoléonien. Donc, tu as tout un courant littéraire qu'on retrouve aussi en Allemagne, hein, avec le romantisme, avec les frères Grimm, tout ça, où les gens ont collecté les contes et les légendes pour les mettre sur le papier, parce qu'ils pensaient que c'était le reflet, à juste titre, d'une sagesse populaire qui datait d'il y a longtemps et qu'il fallait donc la préserver.
D'accord, ok. Bon, bah, c'est très passionnant tout ça. Alors juste, il nous reste 30 secondes à peu près pour parler de l'émission qu'on peut entendre donc, chaque semaine. Elle a deux parties en gros, c'est ça ? La première partie, c'est quoi ?
Alors la première partie, on essaye de présenter des légendes qui sont en rapport avec le temps qui passe. Hein. On a fait une émission sur Halloween, on fera une série d'émissions pendant le temps de l'Avent, on fera une émission sur Noël avec les traditions de Noël en Bretagne, en Cornouailles plus précisément. Et donc ça, voilà, on essaye de présenter le patrimoine traditionnel dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on essaye de construire une histoire à partir d'éléments que un abonné de notre page Facebook nous aura transmis pendant la semaine.
Donc on lance un appel. Alors il y a bien sûr la page Facebook Maison des Contes et Légendes en Cornouailles, c'est ça?
Deux Cornouailles, voilà.
De toute façon, ça y est, enfin, sur le site internet de Radio Évasion, vous allez pouvoir télécharger les émissions. Une par une. Vous les réécoutez comme vous voulez. Et puis, bien sûr, vous pouvez les écouter directement sur le 100.4, c'est-à-dire le mercredi à 10h ou le samedi à 13h.
On s'arrange pour mettre de la pub à chaque fois sur la page Facebook.
C'est ça, c'est super. Bah, merci beaucoup, Christophe. Bah, je pense que là, tu reviendras pour nous parler notamment des rebouteux et des remèdes traditionnels de Cornouailles.
Avec plaisir.
Ouais. Bon, bah, merci. À bientôt.